Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour et surtout merci de nous avoir rejoints sur la radio de la paix qui vous propose son magazine Bana Okapi. Pour ceux qui ne le savent pas, le monde célèbre le 9 septembre de chaque année la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. L'UNESCO affirme que les attaques contre l'éducation privent les élèves de leur droit fondamental à une éducation de qualité et empêchent les enseignants de la dispenser efficacement. Cette attaque contre les établissements d'enseignement, les élèves et les enseignants se produisent à un rythme alarmant dans le monde entier, en particulier dans les zones de conflit armé. Pour souligner le besoin urgent de protéger l'éducation contre les attaques, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 74/275 le 28 mai 2020, établissant le 9 septembre comme la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Cette résolution désigne l'UNESCO et l'UNICEF comme facilitateurs de la célébration annuelle, offrant ainsi l'occasion de sensibiliser et d'encourager les parties prenantes à donner la priorité à la protection de l'éducation et à l'apport d'un soutien aux élèves, aux enseignants et aux autres personnels de l'éducation et aux communautés éducatives dans les zones de conflit. En RDC, plusieurs écoles en zone de conflit sont également victimes des attaques de groupes armés. Quelle est la situation des écoles, élèves et enseignants qui évoluent dans ces zones? Comment prioriser la protection de l'éducation, des personnels de l'éducation et des communautés éducatives dans les zones de conflit? Éléments de réponse dans cette belle émission que je vous propose de suivre. Je suis Sarah Soumbela, la présentation de ce magazine, mise en onde par Diedone Nyangasa wa Nyangasa, magazine coproduit par Plamedimbia Vanga, grâce à Vézolo Rachel Kessembangu, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salumu, Étienne Lusumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Cette émission est réalisée par Gisèle Cage, financée par l'UNICEF. Ce programme de Radio Okapi est sous la supervision de Jean-Marc Omatouaki Mofelele Dijano. Joignons l'utile à l'agréable pour commencer en douceur notre magazine du jour. Okapi. Okapi. Vous êtes à l'écoute de la fréquence de la paix, Radio Okapi, qui vous propose son magazine Bana Okapi. Nous parlons de la protection de l'éducation contre les attaques, quand les bruits des armes réduisent l'éducation en silence. Les écoles, les universités devraient être des lieux sûrs où les étudiants et les éducateurs peuvent œuvrer pour un meilleur avenir. Au lieu de cela, dans les pays touchés par les conflits armés, l'insécurité et les systèmes de protection des droits de l'homme ou de pluralisme politique faible, le système éducatif est souvent la cible d'attaques. Dans ces attaques, on compte des meurtres, des disparitions, des enlèvements, des emprisonnements, des actes de torture et des attentats à la bombe, ainsi de suite. Qu'en est-il de la situation de la RDC ?
En République démocratique du Congo, la montée de la violence et des tensions intercommunautaires dans plusieurs régions du pays a fait que, depuis janvier 2024, plus de 1457 écoles ont dû fermer leurs portes, perturbant l'éducation de plus de 500 000 élèves et impactant également 12 700 enseignants. Selon les conseils norvégiens pour les réfugiés, cette situation plonge une génération entière dans l'incertitude, menaçant non seulement leur avenir éducatif, mais aussi leur sécurité. En mars 2023, l'UNICEF a publié un rapport qui fait état d'environ 750 000 enfants qui ont été perturbés dans les provinces du Nord Kivu et du Turi, des provinces les plus touchées par les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des nouveaux chiffres publiés par l'UNICEF montrent que entre janvier 2022 et mars 2023, au moins 2100 écoles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été contraintes de cesser leur activité suite à la détérioration de la situation sécuritaire. L'insécurité a particulièrement affecté près de 240 000 enfants récemment déplacés qui vivent dans des vastes camps autour de Goma. La violence des groupes armés a forcé des milliers de familles à quitter leur domicile en quête de sécurité, empêchant ainsi leurs enfants d'aller à l'école. Il faut savoir que les fermetures d'écoles augmentent le risque pour les enfants de tomber dans le griffe de groupes armés, de subir de violences physiques, d'être exploité ou de sombrer dans le travail des enfants. En RDC, ces écoles, souvent prises pour cible ou occupées à des fins militaires, voient leur mission première gravement compromise. Face à ces tableaux tristes et sombres, les conseils norvégiens pour les réfugiés appellent donc toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les attaques contre les établissements scolaires et à garantir la protection des enfants qui ont le droit fondamental à l'éducation. Il est urgent d'agir pour éviter que cette crise ne devienne irréversible, entraînant des conséquences désastreuses pour le développement de tout le pays.
Merci beaucoup Stanislas Diomi. Notre tour d'horizon démarre en Ituri. Une trentaine d'écoles primaires et secondaires rencontrent de grandes difficultés pour fonctionner depuis la rentrée scolaire dans les territoires de Djougou et Mambasa. En cause, l'insécurité liée à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, dont les rebelles ADF, qui contraignent les nombreux enfants et leurs encadreurs à fuir. Cette situation inquiète les notables, les activistes de droits humains, ainsi que la société civile, qui lance un appel urgent au gouvernement pour rétablir la sécurité dans ces zones. Ézéchiel Mouzalia.
La dégradation sécuritaire depuis environ 2 semaines dans les territoires des Djougou, Irumou et Mambasa perturbe gravement le déroulement des activités scolaires lancées le 2 septembre dernier. Plusieurs écoles opèrent dans une instabilité totale, notamment sur l'axe Jina Fataki, en raison des menaces d'attaque et des provocations des groupes armés présents dans la région. Un notable de Jina a exprimé son inquiétude, soulignant que de nombreuses écoles ne fonctionnent plus depuis 7 semaines après une attaque des miliciens de la Codeco, Jonathan Maki.
Passer la nuit à la base de la monnaie. Il y a le site de Gina qui a été légèrement par le coup de balle et saccagé aussi légèrement. Les autres écoles de Gina se trouvent près de la base de la monnaie. C'est seulement l'école qui se trouvait vers le grand centre de Gina qui a été épais minimisé. À côté de la base de la Monisco, il y a le site de Guima à Gina, il y a Epelona Gina, il y a Epelona Gina, il y a encore d'autres écoles déplacées qui fonctionnent dans les après-midi dans ces bâtiments. À Gina, il y a au-delà de 10 écoles qui fonctionnent. Il y a 9 écoles primaires avec 3 écoles secondaires. Alors, estimez maintenant, une école primaire n'a pas moins de 400 élèves. Une école secondaire, pas moins de 200. Avec ça, nous voyons déjà, nous risquerons de perdre la main. Alors, ça sera vraiment terrible pour l'avenir de nos enfants.
La situation est similaire à Fataki, à environ 85 km de Bounia, où presque toutes les activités scolaires sont paralysées suite à une incursion mardi de ces mêmes groupes armés. Enfants, enseignants, parents et personnes de troisième âge ont fui, certains vers les sites de Djaïba, d'autres vers la base de la MONUSCO pour se mettre à l'abri. Désiré Kpadiou, le président du site des déplacés de Djaïba, décrit la situation.
Il y a une alerte, les enfants sont retournés de l'école, les activités sont vraiment paralysées. Les gens se déplaçaient massivement tout à l'heure là, mais comme école Pechou ou Institut Moja, Institut de Fataki, même les écoles qui se trouvent partout là, jusqu'au niveau de Djaïba. Il y a école primaire 1, 2, 3, 4, école primaire 5, et puis à part sa école primaire et Pechou, sont vraiment agités.
À Bounia, bien que la ville soit relativement calme et permette aux élèves de suivre leurs cours, ce n'est pas le cas pour des dizaines d'écoles dans les chefferies de Bangolé et Babilaba Kwanza dans les territoires de Mambasa. Certaines écoles fonctionnent en déplacement à Mambasa Centre, tandis que d'autres n'ont pas encore ouvert depuis le 2 septembre en raison de l'insécurité provoquée par les ADF. Le responsable local de la nouvelle société civile congolaise rappelle que l'État congolais a l'obligation de garantir à tous les enfants un accès sécurisé à l'éducation. l'éducation. Jospin Mboa.
Il y a ces écoles-là qui ont été délocalisées, qui fonctionnent ici à Mambasa Centre. Il y a de ces écoles-là qui n'ont même pas été délocalisées, mais que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas rentré effectif dans la zone. Ces enfants-là sont dans le chômage, ils sont dans les sites de déplacés, dans des familles d'accueil. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement. Avant la rentrée scolaire ici, nous avions alerté les autorités sur l'inquiétude que nous avions. Parce que la rentrée scolaire coïncide avec la saison des récoltes de cacao. Et pendant cette saison ici, il y a toujours de l'insécurité. Et pour cela, les autorités devraient prendre des dispositions pour qu'il y ait d'abord de la sécurité.
L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, appelle les gouvernements à renforcer la protection des civils et des établissements scolaires dans les zones en conflit, notamment dans la chefferie de Wallace et Vankoutou, dans les territoires d'Irumu. Christophe Mounyanderou, coordonnateur local, témoigne.
Le premier défi, vous savez que toutes ces écoles sont endommagées. Les trois ans qu'on a abandonné les bâtiments et ne sont pas à bon état. Il y a d'autres écoles qui ont perdu les bancs, il y a d'autres écoles qui ont perdu les documents administratifs, y compris aussi même pédagogiques. Nécessairement, le gouvernement congolais aussi à son tour doit voir comment appuyer ces écoles. Ces six écoles qui ont repris sur l'axe Komanda Luna, nécessairement, on doit les appuyer. Aussi protéger ces populations, y compris aussi ces élèves écoliers qui ont repris les activités vers ces entités.
Enfin, il faut noter que des dizaines d'écoles ont été vandalisées et certaines incendiées dans le secteur de Banyalikilo, où 13 des 15 groupements sont sous le contrôle des miliciens de la Codeco, selon des sources coutumières locales. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Au sud Kivu, des groupes thématiques de l'éducation ont été installés dans les zones touchées par la guerre du M23 au nord Kivu voisin, mais aussi dans les zones touchées par la catastrophe dans les territoires de Kalehe. Ces groupes sont installés pour répondre aux difficultés auxquelles font face les écoles face à ces situations. Rachel Kessembangu nous en dit plus dans ce reportage.
Les mouvements de population provenant du nord Kivu vers le sud Kivu, la catastrophe naturelle des pluies diluviennes ayant causé mort d'hommes à Nyamukubi et Bushushu à Kalehe l'année dernière, sont les principales situations qui mettent à mal l'éducation au sud Kivu. Ce qui a fait que la direction provinciale de l'EPST en province met en place les groupes thématiques de l'éducation. Comment fonctionnent ces groupes? Léon Moussagui, directeur AI de l'EPST Sud Kivu 1, répond.
Depuis l'année passée, lorsque il y a eu mouvement des populations suite à la guerre du M23 et aussi le problème de la catastrophe naturelle dans Bushushu et Nyamukubi, nous avons installé un groupe thématique de l'éducation pour répondre à cette difficulté-là, à ces crises humanitaires qui se sont observées soit dans les zones de Nyamukubi et de Bushushu, mais aussi les zones se trouvant à Minova et à Numbi. Maintenant, comment les élèves se comportent, les enseignants dans cette zone? Nous avons installé un groupe thématique de l'éducation en synergie avec les partenaires techniques et financiers, la communauté locale de Minova, mais aussi nous avons travaillé en intersectorialité, c'est-à-dire la santé, la nutrition, la protection. Nous travaillons en synergie pour que les enfants puissent étudier. Pour cette année, la même philosophie existe. Nous travaillons en synergie avec nos partenaires techniques et financiers. Nous sommes avec la communauté locale pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions et éviter des maladies. Alors, il y a 63 écoles qui sont actuellement occupées par les déplacés venus du Nord Kivu, principalement de Sake, et Bweremana, Chacha et Kiroche, et les autres qui sont venus du haut plateau. Nous, comme gestionnaires de l'éducation en province, on ne peut pas chasser ces déplacés. Ils sont toujours là, on collabore avec l'organisation des déplacés, avec l'EACR et avec WASH.
Toutefois, les PST et ses partenaires dont l'UNICEF et le HCR travaillent ensemble pour permettre aux élèves déplacés de bien étudier. Quelles sont les dispositions prises pour ces zones en conflit et le problème rencontré ? Léon Moussagui.
Qu'est-ce que nous faisons précisément ? Les enfants étudient avant midi et après midi, les salles sont occupées par les déplacés de guerre. C'est comme ça que nous avons résolu. Mais il y a les partenaires techniques qui sont chargés de WASH, passent dans les salles de classe pour désinfecter les salles de classe. Et avant que les élèves n'étudient, les salles sont déjà désinfectées pour lutter contre les maladies. Et après-midi encore, les réfugiés occupent ces mêmes salles de classe. C'est sûr qu'il y a des pupitres qui ont été endommagés, utilisés comme bois de chauffe, mais il y a les partenaires qui se sont déjà positionnés sur place. Il y a par exemple ODH qui a fabriqué des pupitres pour ses enfants et les autres sont déjà positionnés sur place pour répondre à cette crise. Il y a d'autres partenaires comme UNICEF et les autres qui ont déjà disponibilisé les fournitures scolaires. Et après 15 jours de la rentrée scolaire, ils vont passer à la distribution des fournitures scolaires aux élèves des communautés locales, mais aussi aux élèves des communautés déplacées. Cette distribution va se faire sans discrimination parce que tous les enfants, qu'ils soient déplacés ou autochtones, tous vont bénéficier de ces fournitures scolaires. Voilà les dispositions qu'on a prises pour cette rentrée, mais se pose un problème très sérieux parce que les élèves vont partager les mêmes salles de classe avec les déplacés. On ne peut pas chasser les déplacés, mais aussi les enfants ont leur droit d'étudier. Voilà un peu le dilemme que nous avons, mais avec la communauté locale et les partenaires techniques, nous sommes à pied d'œuvre pour que tout se passe dans de bonnes conditions.
Cependant, à Bukavu, chef-lieu de la province, il n'y a pas d'impact direct de la guerre sur les activités scolaires. Toutefois, une sensibilité sur les patriotismes se fait ressentir sur les enfants par rapport à ce qu'ils apprennent de loin. Monsieur Bienvenu, directeur du complexe scolaire Le Miracle.
Par rapport aux enseignants, s'ils pouvaient courir certaines difficultés dues à ce genre de situation, jusque-là, non, ils ne sont pas affectés directement. Les enseignements vont bon train et le conflit n'a pas encore impacté notre école. Mais je sais que dans d'autres provinces, comme le Nord Kivu, comme l'Ituri, cela pouvait déjà avoir des effets. Mais à notre niveau, nous qui sommes dans la ville de Bukavu, les répercussions ne sont pas encore ressenties. Répercussions du conflit qui sévit dans notre province et dans l'est de notre pays en général sur l'enseignement dans notre école, oui, mais de manière pas ouverte. Nous en sentons les répercussions lorsque nous sommes surtout dans l'éducation, dans les cours d'éducation civique et morale. Lorsque nous touchons des chapitres sensibles comme le patriotisme, parce que c'est devenu une matière sensible pour nous, les enfants se sentent affectés par les conflits. Lorsqu'ils apprennent l'agression dont notre pays est victime, lorsqu'ils apprennent les difficultés que courent les personnes déplacées dans certains coins de notre pays, lorsqu'ils comprennent les risques et même les morts qui s'annoncent, qui se font diffuser par des radios dans certains coins, ils sont affectés d'une manière ou d'une autre. Mais parlant de la manière d'être affecté directement, d'affecter les cours ou l'école, nous n'avons pas encore des cas de ce genre.
Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Okapi. Thank you.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Très heureux de vous retrouver pour la suite de notre magazine Bana Okapi. Ce magazine dédié aux jeunes et plus jeunes qui traitent des sujets liés à la protection des droits de l'enfant, la santé, l'environnement, l'entrepreneuriat et l'éducation. Et on en parle justement de cette dernière thématique vue sous un angle sécuritaire. Vous savez, le monde célèbre le 9 septembre de chaque année la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. L'UNESCO affirme que les attaques contre l'éducation privent les élèves de leur droit fondamental à une éducation de qualité et empêchent les enseignants de la dispenser efficacement. Ces attaques contre les établissements d'enseignement, les élèves et les enseignants se produisent à un rythme alarmant dans le monde entier, en particulier dans les zones de conflits armés. Dans la première partie de notre magazine, nous avons été au nord et sud Kivu, puis en Ituri, les provinces les plus touchées par les conflits armés en RDC. Restez avec nous pour recevoir et écouter nos invités, notamment le prophète du Nord Kivu, le préfet d'une école en zone de conflit. Je suis Sarah Soumbela à la présentation de ce magazine. Dieudonné Nyangasa assure sa mise en onde. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Pourquoi établir une journée dédiée à la protection de l'éducation contre les attaques? Quel est le contexte qui a poussé les Nations Unies à proclamer cette journée? Jeff Opela nous explique le contexte.
Dans le monde entier, les attaques contre les enfants se poursuivent sans relâche. À mesure que les belligérants méprisent l'une des règles les plus fondamentales de la guerre, la protection des enfants. La longueur des conflits actuels menace l'avenir des générations entières. Sans accès à l'éducation, une génération d'enfants vivant en situation de conflit grandira sans avoir acquis les compétences nécessaires pour contribuer à leur pays et leur économie, aggravant ainsi la situation déjà désespérée des millions d'enfants et de leurs familles. Le droit d'un enfant à l'éducation ne peut pas être préservé dans les zones de conflit si l'éducation elle-même n'est pas protégée. L'éducation peut sauver des vies. Quand ils ne vont pas à l'école, les enfants sont particulièrement à la merci de la maltraitance, de l'exploitation et du recrutement par des forces et des groupes armés. L'école devrait être un lieu sûr où les enfants sont à l'abri des menaces et des situations de crise. Cela constitue également une mesure essentielle pour rompre les cycles de crise et réduire les risques de conflits à l'avenir. La Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques a pour but de souligner la situation critique de plus de 75 millions d'enfants et de jeunes de 3 à 18 ans vivant dans 35 pays touchés par la crise et leurs besoins urgents d'un soutien éducatif. Elle exprime aussi des préoccupations quant aux effets de la violence permanente sur ces enfants et sur leur capacité à accéder à l'éducation. Les conséquences d'une telle situation nécessitent une attention particulière au-delà des besoins des apprenants dont les établissements par ailleurs étaient temporairement fermés en raison de la pandémie de COVID-19. En proclamant cette journée, les Nations Unies envoient un message clair concernant l'importance de préserver les écoles en tant que lieu de protection et de sécurité pour les élèves et leurs enseignants et la nécessité de maintenir l'éducation en tête des politiques publiques. Cela reste une priorité alors que le gouvernement continue de lutter contre la COVID-19 qui a entraîné la fermeture d'écoles pour plus de 90% de la population scolaire et étudiante mondiale. La journée a été proclamée à la suite d'une décision unanime de l'Assemblée générale des Nations Unies appelant l'UNESCO et l'UNICEF à sensibiliser le public au sort de millions d'enfants vivant dans les pays touchés par un conflit. La résolution proclamant la journée a été présentée par l'État du Qatar et comparainée par 62 pays. La résolution 74-175 de l'Assemblée générale affirme en effet que le gouvernement a la responsabilité première de fournir une protection et d'assurer une éducation de qualité inclusive et équitable à tous les niveaux, à tous les apprenants, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables. Elle souligne en outre la nécessité d'intensifier les efforts et d'augmenter les financements pour promouvoir les environnements scolaires sûrs et protecteurs dans les situations d'urgence humanitaire. Elle affirme que doivent être prises toutes les mesures possibles pour protéger les écoles, les apprenants et les personnels éducatifs contre les attaques. Elle appelle enfin à s'abstenir de toute action entravant l'accès des enfants à l'éducation et souligne la nécessité de faciliter l'accès à l'éducation dans les situations de conflits armés. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, encouragent la célébration annuelle de la journée en étroite collaboration avec des partenaires au sein et en dehors du système des Nations Unies. Travaillant en première ligne dans les pays touchés par les conflits, les entités des Nations Unies aident depuis longtemps les États membres à renforcer leur capacité à offrir à tous l'accès à une instruction de qualité en temps de crise.
Okapi, encore plus d'infos.
À présent, cap sur Béni. La guerre a occasionné la fermeture de plusieurs écoles depuis plus d'une décennie. Si certaines écoles ont été incendiées ou saccagées par le rebelle des ADF, d'autres cependant ont été délocalisées vers des zones de refuge supposées mieux sécurisées. Il y a également celles qui sont utilisées par des déplacés internes comme abri. Cette situation est à la base non seulement de la déperdition scolaire, mais aussi elle impacte négativement la qualité de l'éducation des enfants. Guylaine Kassassia pour un point complet.
Sur l'axe Beni, Oicha et Eringeti Kainama par exemple, plusieurs écoles ont été délocalisées depuis 2016 à cause de l'activisme des ADF. C'est ce qu'explique Biefé Baraka, responsable de la division nationale de contrôle de la préparation de paix et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant d'Inakope Eringeti.
La situation des écoles dans le territoire de Beni est vraiment catastrophique. C'est par exemple dans l'axe de ma vie jusqu'à Kainama. Il y a plusieurs écoles qui ont été délocalisées et d'autres ont été fermées suite aux atrocités des présumés ADF caractérisées par des massacres, incendies des établissements scolaires ainsi que des kidnappings des élèves ainsi que population et chefs d'établissement. Il y a par exemple dans l'axe Kainama, nous avons l'épée Semuliki qui fonctionnait au village Ibanda Semuliki. Actuellement, cette école fonctionne au village Muziranduru. Il y a également l'épée Okanefu. Cette école fonctionnait également au village Pele. Et aujourd'hui, cette école fonctionne à l'épée Kainama. Nous avons l'épée Manzumbu. C'est une école qui se trouve sur le long de la route Eringeti-Kainama. Cette école fonctionnait au village Manzati. Aujourd'hui, cette école fonctionne à l'Epe-Kainama. Donc, c'est une école d'accueil. Il y a aussi Epe-Amosini. C'est une école également qui fonctionnait au village Kolou. Actuellement, cette école fonctionne à Eringeti. Nous avons également Epe Maïsafi. Ce sont là les écoles qui se trouvent sur le long de la route Eringeti-Kainama. Cette école fonctionnait au village Maïsafi. Cette école fonctionne aujourd'hui à l'Epe Bunakere, c'est à Eringeti. Nous avons également l'Epe Tchutchubo. Cette école fonctionnait au village Tchutchubo, c'est juste au fait fond de la brousse. Aujourd'hui, cette école fonctionne à l'Epe Bunakere. Nous avons dans l'axe Eringeti Oicha, par exemple Epe Opira, Epe Kokola, ce sont là les écoles qui se trouvent sur le long de la route Oicha Eringeti Maimoya. Toutes les deux écoles là fonctionnent à Eringeti, notamment l'une de ces écoles fonctionne à l'Epe Wangachu et l'autre fonctionne à l'Epe Bunakere. Presque toutes les écoles de Maimoya ont été délocalisées à Oicha. C'est suite à la guerre. Maintenant, l'axe Maimoya Chani Chani. Il y a Epe Bunyondo qui fonctionnait à l'Institut Luna. Mais depuis l'année passée, cette école fonctionne à Chani Chani. Il y a aussi Epe Kapupa qui fonctionnait à Chani Chani. Mais actuellement, cette école fonctionne à Oicha. Donc, suite à la guerre, vous trouverez que il y a un tableau sombre des écoles qui se trouvent juste dans l'axe Mavivi jusqu'à Kainama. Maintenant, si vous prenez par exemple les écoles qui se trouvent dans l'axe Mbau-Kamango, c'est pire. Parce que d'abord, les trousseaux là, les trousseaux sont délambrés.
Si certaines écoles avaient été délocalisées, d'autres par contre ont carrément été fermées, renchérit Bienfait Baraka.
Actuellement, les écoles qui ne fonctionnent pas, il y a les City Mamba Opira qui fonctionnait à Opira. Aujourd'hui, cette école ne fonctionne pas. Il y a également les City Mutakiri, c'est à Kainama, juste à la limite avec la province de l'Ituri. Cette école ne fonctionnait pas, mais ils ont repris cette année. Maintenant, vous voyez, ils travaillent avec un effectif faible. L'école qui fonctionnait avec environ 1000, soit 800, soit 600 élèves. Actuellement, vous trouverez une école qui fonctionne avec une centaine d'élèves. Donc, il y a une déperdition des élèves suite à la guerre. Et la guerre ici impacte négativement les activités scolaires dans les territoires de Béni. Suite à cette guerre-là, vous trouverez maintenant la déperdition. Donc, les écoles que je viens d'énumérer ici quittent et laissent leurs bâtiments. Par conséquent, là où ils partent s'organiser, soit ils cherchent une école d'accueil. C'est par exemple la liste que je viens d'énumérer ici. Toutes ces écoles cherchent une école d'accueil.
La situation est similaire dans les secteurs de Benimpaou, où environ 4 localités ne disposent que d'une seule école, au lieu des 14 qui existaient ici auparavant. Kinos Katou, président de la société civile de Mamové, pour des explications.
Compte tenu de l'insécurité qui vient de battre record dans notre localité, ça fait plus ou moins 14 ans, plusieurs écoles ont fermé leurs portes dans notre localité. Bien avant, nous avions au moins 14 écoles. Voilà. Parmi ces 14, au moins 12 ont déjà fermé leurs portes. Parmi ces 12, 6 ont été délocalisés dans la commune rurale d'Oucha, où sont en train de fonctionner pendant plus ou moins 4 ans. Au niveau de Mamové, nous avons une école qui fonctionne. C'est une école des protestants. À Beoumanyama, il y a aussi une autre école privée qui est en train de fonctionner. Avant la guerre, chaque école avait plus ou moins 1000 élèves. Autres, on pourrait retrouver 500, ailleurs 200, selon le fonctionnement de chaque agglomération. La localité de Babila Bakayoko de Mamové était constituée de 4 grandes agglomérations, dont l'agglomération de Maleki, où nous avions 3 écoles qui ont déjà fermé la porte, l'agglomération de Baeti, une école, l'agglomération de Mangazi, une école, l'agglomération de Makakwa, une école, l'agglomération de Beoumanyama, avec 2 écoles. Toutes ces écoles ont déjà fermé leurs portes.
Cet acteur de la société civile recommande au gouvernement de redoubler d'efforts pour que la paix revienne dans la région en vue de sauver l'avenir de ses enfants.
La population civile, les affaires de notre localité sont sacrifiées vraiment par le manque d'éducation de base, par le manque d'éducation au niveau de l'école. Plusieurs affaires de Ambil dans le village sans avoir une éducation de base. Nous sommes en train de recommander à notre gouvernement congolais de nous assurer d'abord la paix dans notre localité, après de voir comment ils vont accompagner ces enfants-là qui sont vraiment délaissés au merci de la guerre dans notre localité.
Si certaines infrastructures scolaires n'ont jamais été incendiées ou saccagées par des rebelles des ADF, elles sont toutefois envahies par des déplacés internes qui les utilisent comme abri. C'est le cas de l'école primaire de Mwangaza Awisha qui a été occupée pendant environ 5 ans par des déplacés qui cohabitaient avec les élèves. Béni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Okapi.
La guerre dans la région de Beni a impacté négativement le déroulement des activités scolaires dans plusieurs écoles. Les enfants traumatisés par ces violences étudient dans des conditions loin d'être adéquates. Pour en parler, nous recevons comme invité John Moussoumani Kambale, directeur de l'école primaire Toda dans le groupement de Bambouba Kisiki. C'est dans le territoire de Beni. John Moussoumani Kambale s'entretient avec Guylaine Kassassia.
John Moussoumani Kambale, bonjour.
Bonjour, madame.
Dans quelles conditions les enfants étudient-ils dans votre école qui, je le rappelle, se situe dans une zone régulièrement ciblée par de groupes armés?
Ici chez nous, nous sommes dans une grande difficulté, à Maïmoya surtout, comme il y a des attaques répétitives de ces rebelles des ADF qui nous menacent à tout temps, qui nous dérange jusqu'à ce que nous ne parvenons même pas à finir tous les programmes établis par notre gouvernement. Parce que des fois, on est à l'école et d'autres fois, on est à la maison. Parce que quand il y a une attaque, et l'attaque de notre entité ici ne passe pas sans qu'on puisse tuer certaines personnes et même emporter certains élèves et même certains écoliers au sein de nos écoles qui se trouvent ici à Maïmoya.
Avec les attaques fréquentes de groupes armés, les déplacements de population, les élèves parviennent-ils dans ces conditions à épuiser le programme scolaire au terme de 9 mois que dure l'année scolaire?
Quant au programme établi par le gouvernement au niveau de nos écoles et de notre entité ici, nos écoliers n'arrivent pas vraiment à épuiser tous les programmes parce qu'il y a beaucoup de jours qui ne sont pas toujours bons pour les études à cause de ces différentes attaques au sein de notre milieu qui causent vraiment l'arrêt des cours, qui causent vraiment à ce que les programmes ne puissent pas être épuisés. Imaginez-vous, ça fait plus des années que les rebelles viennent nous déranger au sein de notre entité ici de Maïmoya et qui emportent les affaires. Nous n'allons pas trouver même la suite à propos de ces affaires-là qui sont déjà emportées par ces rebelles des ADF.
Alors John, dans quel état d'esprit étudient les enfants dans une zone comme la vôtre où les balles crépitent chaque jour, où des déplacés partagent des salles de classe avec des élèves?
Quand ça concerne l'esprit des enfants, bien des écoliers dans des salles de classe, c'est catastrophique. Parfois, quand on est en train de les enseigner, si on aura un coup même au niveau de l'extérieur, vous trouverez que les enfants peuvent se mettre debout, croira que c'est encore l'incursion des ADF. Et Dieu merci parce que nous les avons quand même déjà donné certaines règles de suivre ce que les enseignants peuvent leur dire quand ils sont en train d'étudier. Ils reprennent encore en étudiant, mais ce n'est pas du tout bien. Vous imaginez quand les collègues de certains écoliers arrivent à mourir dans les massacres. Les enfants restants dans des salles de classe doivent rester toujours les oreilles tendues à l'extérieur parce qu'eux aussi ne connaissent pas leur jour ou bien leur temps de mourir. C'est vraiment une chose tellement déplorable.
Et certaines infrastructures scolaires ont été victimes, perdant ainsi certains de leurs enseignants, comme même des élèves. Qu'en est-il de votre école?
Au niveau de notre école ici, nous avons déjà perdu plus de 4 affaires emportées par les ADF. Et Dieu merci, il y a quand même 2 de ces affaires qui ont été remis.
Alors, pour finir, qu'attendez-vous des autorités pour permettre à ces enfants d'avoir une scolarité normale à l'exemple de ceux d'autres clans du pays?
Les milieux dans lesquels nous nous retrouvons, c'est aussi une partie de notre territoire national. C'est pour dire que nos enfants qui étudient ici dans cette localité de Liva doivent également être très bien gérés, très bien garantis par les gouvernements. C'est ainsi que nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour que nos enfants également étudient dans la paix. Donc le gouvernement doit éradiquer tout ennemi qui sillonne surtout dans notre milieu ici à n'importe quand. Imaginez-vous qu'à la fois passée on avait emporté nos enfants, c'était vers 10h. Quand on était déjà en classe, on a commencé à crépiter derrière mon école, ici là où il y a l'école secondaire, jusqu'à ce que nous avions aussi perdu une maman professeure là-bas qui a été tuée. C'est dommage vraiment. Nous demandons à ce que nos autorités congolaises puissent tout faire pour qu'ils nous amènent la paix et surtout prendre leurs dispositions que ces ennemis ne puissent pas vraiment arriver à connaître pour qu'ils puissent les mettre à l'état vraiment qui est normal. Nous avons besoin de la sécurité dans notre entité pour que nos écoliers puissent également finir tous les programmes dits par notre gouvernement. Parce que quand nous ne terminons pas les programmes, surtout, ça peut créer d'autres anomalies au sein des têtes de nos enfants. Quand ils vont monter dans des classes supérieures, ils auront des vides dans leur tête. Nous avons vraiment besoin de la sécurité parce que Même les parents de ces enfants sont toujours emportés par ces ADF et beaucoup sont même tués. Imaginez-vous quand un enfant qui vient à l'école pour vouloir venir étudier avec des stress pareils. C'est vraiment douloureux. Un enfant qui a perdu son père, qui va à l'école avec cette mentalité qui est déjà dérangée, lui aussi, il ne connaît pas son temps d'être aussi tué ou bien porté par ses rebelles au niveau des écoles. Ça fait déjà beaucoup d'années. Nous commençons l'année scolaire, nous ne terminons pas le trimestre sans que nous puissions fuir et parvenir maintenant à récupérer les quelques jours perdus. Ça nous casse vraiment des têtes.
John Moussoumani Kambale, merci.
Je vous remercie.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Les attaques sont permanentes, d'autant plus que nous évoluons avec la situation de la guerre dans la province. Nous pouvons vous garantir que chaque fois qu'il y a menace, nous alertons le service de sécurité pour intervenir. Depuis la résurgence des conflits armés, nous avons assisté à des écoles qui ont été fermées. C'est ce qu'affirme M. Lik Baweza, prophète à la province éducationnelle du Nord Kivu, au micro de Gisèle Cage.
Monsieur Lik Baweza, bonjour.
Bonjour, madame.
Voilà, à l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, l'ONU déplore des attaques contre, en tout cas, l'éducation. Plus de 6000 attaques enregistrées dans les zones en conflit. Bon, nous parlons des cas de la RDC où des élèves et des éducateurs auraient été victimes des attaques de la part des belligérants. Quelle est la situation dans la province éducationnelle du Nord Kivu?
Oui, bon, de toute façon, madame, nous ne pouvons pas quantifier à l'heure actuelle le nombre d'attaques, peut-être à main armée ou suite aux résurgences de conflits dans la zone. Je dois vous dire que les attaques sont permanentes. Hein. Elles sont permanentes pendant que nous continuons encore d'évoluer avec la situation de la guerre ici dans la province. Néanmoins, nous pouvons quand même vous garantir qu'à tout moment qu'il y a des poches de menaces, nous ne cessons d'alerter les services de sécurité pour aussi s'y prendre le plus tôt possible. Et sinon, le cas le plus récent était celui de l'enfant qui a été tué, je peux dire sauvagement, à l'Institut Mugara ici à Nyiragongo.
Oui.
Par un élément, un présumé mousalé, donc qu'on a encore un peu du mal à identifier. D'ailleurs, le procès est en cours.
Là, c'est à Goma.
Ça pourra reprendre encore demain.
Là,
oui,
c'est
à Goma, dans le Nord Kivu 1. Bon, je peux dire précisément dans la sous-division de Nyiragongo.
Okay.
C'est une sous-division qui est directement annexée à la ville. Mais depuis la résurgence des conflits armés jusqu'à aujourd'hui, nous avons assisté à beaucoup des cas, par exemple, des écoles qui ont été fermées suite aux attaques de forces armées. On a dénombré au moins, pour l'année scolaire qui vient de se terminer, nous avons dénombré au moins 312 écoles qui ont été fermées suite aux conflits armés et aussi 229 autres qui ont été incendiées. Ce sont des attaques physiques, puisque quand on doit incendier les écoles et les directions scolaires et presque, je peux dire, tout l'équipement vandalisés, d'autres calcinés, ainsi de suite, pillés systématiquement. C'est encore une régression pour la formation de la jeunesse et aussi pour le développement de notre pays.
Et là, c'est dans la zone occupée par des rebelles.
Oui, dans la zone occupée par les rebelles. Et suite à ça aussi, nous avons assisté à des écoles qui étaient forcées d'être délocalisées. Il y avait 63 écoles en général qui ont été délocalisées, dont deux écoles dans... je peux dire 22 écoles dans le territoire de Nyiragongo, la partie occupée de Kibumba, et le reste dans le territoire de Rutshuru.
Alors, combien d'enfants en âge scolaire, ainsi que les enseignants qui ont abandonné leur milieu à la suite de la guerre dans cette province?
Oui, à ce jour, nous avons réussi à identifier dans les camps et autour des camps 1222 enseignants au total qui étaient obligés de fuir leur zone pour venir s'installer ici dans les camps de déplacés, hein, et pour lesquels nous sommes en train de travailler avec le gouvernement provincial pour voir comment on peut aussi utiliser ces enseignants, d'autant plus que ce sont des enseignants mécanisés payés, dans les espaces temporaires d'apprentissage qui sont en cours de construction. Donc ces enseignants n'ont plus l'accès à leur localité d'origine, leur lieu de travail habituel suite aux conflits armés. puisque leur sécurité en dépend.
Mais les attaques contre l'éducation peuvent entraîner des répercussions physiques et psychologiques graves et à long terme sur les élèves et les enseignants, selon l'ONU. Dans quel état d'esprit se trouvent les enfants et les enseignants qui ont fui les régions occupées?
Oui, je crois que je vous l'avais dit autrefois aussi dans une émission, madame, qui date du mois de juillet. L'enfant ou l'enseignant qui a quitté la zone à conflit sous l'effet traumatique de la guerre continue d'être traumatisé, puisque chaque fois il revit cet événement-là dans son intelligence. C'est comme une vidéo qui passe devant lui à chaque instant. Et il faudra vraiment un accompagnement psychosocial pour faire sortir pour détraumatiser ces enseignants et aussi les enfants, tout comme leurs parents aussi, les parents de ces enfants. Et je dois encore vous dire qu'il y a certains enfants qui ont perdu leurs parents, qui, par exemple, ont été tués à leur présence, vous voyez. Et imaginez, quand on doit abattre vos parents en votre présence, sous vos yeux, et vous n'avez aucun mot à dire, puisque vous êtes mineur et dépourvu de tout moyen de défense. Durant toute la vie de l'enfant, même à l'âge adulte, il va toujours continuer à revivre l'événement et aussi en faire part peut-être à ses enfants ou à la famille qu'il va devoir former plus tard. Donc, c'est vraiment une situation, toutes ces situations de barbarie sont des situations que nous devons tout faire pour éviter, malgré que nous n'avons pas de moyens suffisants pour le faire. Nous ne pouvons que nous remettre à l'armée et aussi au gouvernement pour pouvoir au moins chercher comment accompagner tous ces enfants, toutes ces familles déplacées, traumatisées par la guerre, tout ça, pour sortir quand même de cette impasse. Sinon, ça restera toujours un problème pendant qui pourra affecter la psychologie de toutes ces familles, peut-être au fil des ans.
Mais vous n'avez pas, à votre niveau, dans la province du Nord Kivu, il n'y a pas de psychologues, éducateurs qui peuvent prendre en charge ces cas. Donc, je parle des enfants victimes, enfants et enseignants victimes des conflits et qui ont abandonné leur milieu.
Les psychologues, nous les avons. Et d'ailleurs, nous venions de former aussi un certain nombre d'inspecteurs dans ce domaine, tant au primaire qu'au secondaire, y compris quelques conseillers pédagogique de nos écoles. Mais par rapport à l'ampleur de la situation, en tout cas, le nombre ou l'effectif des psychologues qui doivent couvrir toute cette masse de population déplacée est encore minime. C'est presque une goutte d'eau dans l'océan. Donc, il faut plus de psychologues, mais également les ONG humanitaires qui sont censées nous accompagner doivent aussi être dotées d'un nombre important de psychologues formés à la matière pour voir comment accompagner psychologiquement toutes ces familles et surtout donner encore, je peux dire, redonner de l'espoir à ces familles pour retrouver un peu le sourire aux lèvres.
Mais pour espérer quand même qu'une génération d'enfants qui accède à l'éducation, qu'est-ce que vous proposez comme solution à toutes les tensions et qui affectent en tout cas l'éducation scolaire des enfants?
Nous en avons parlé ce matin à la réunion tenue au gouvernorat. Il y a un point qui a été soulevé comme quoi il faudra sécuriser d'abord les sites de déplacés, puisque même dans les sites aussi, il s'observe toujours des actes de violence dans les sites aussi, soit entre les déplacés eux-mêmes, tout comme commis par les gens de l'extérieur, les gens mal intentionnés qui parfois se comportent un peu négativement et qui viennent aussi semer des troubles dans les sites. Il faudra que d'abord, même si on pouvait réussir à avoir un lot important peut-être de matériel, de moyens didactiques et consorts, mais si les sites ne sont pas hautement sécurisés, tout ce qu'on peut donner comme éducation citoyenne à ces enfants déplacés, tout comme aux enseignants déplacés, ne sera pas vraiment garantissant, puisque à tout moment, ils seront objets d'inquiétude, ils seront toujours inquiétés par les bandits à main armée qui opèrent librement dans la zone parfois. Mais en tout cas, la quiétude ne sera pas au beau fixe. Donc, il faudra que la sécurité soit renforcée dans tous les sites de déplacés et aussi, ça va permettre à ce que les psychologues qui passeront, et même aussi la cascade de formation que les inspecteurs vont administrer dans le cadre de l'éducation inclusive et aussi l'éducation en situation d'urgence, va trouver sa place.
Alors, monsieur Luc Baweza, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
Vous l'avez compris, c'est la fin de votre magazine Bana Okapi du jour. Ce numéro s'est penché sur la journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Cette journée est célébrée le 9 septembre de chaque année. En RDC, plusieurs écoles se trouvent dans les zones en conflit, sont victimes des attaques des groupes armés. Cette émission détaille la situation des écoles, élèves et enseignants qui évoluent dans ces zones. Nous avons été dans les provinces les plus touchées par les conflits armés, notamment au nord et sud Kivu, puis Ituri. Vous pouvez réécouter ce magazine sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Merci de votre attention soutenue. Je vous laisse en compagnie de l'antenne soir entre les bonnes mains et la belle voix de Jeff Opela. Toute l'équipe de Bana Okapi vous fixe rendez-vous demain, même heure, même fréquence.